discussions du soir. Les discussions du soir, Antoine Garapon.
Je reçois ce soir Frédéric Gros, écrivain et philosophe. Bonsoir Frédéric Gros.
Bonsoir.
Alors je ne sais pas exactement quel Frédéric Gros je reçois ce soir. Est-ce que je reçois le philosophe, l'universitaire, le spécialiste de Foucault ou le romancier qui vient de signer un roman possédé aux éditions Albin Michel?
Alors oui, plutôt l'écrivain ce soir. Cela dit, c'est vrai que vous le soulignez, Antoine Garapon, J'ai pas mal travaillé sur Foucault, qui est peut-être ce philosophe qui a, en même temps c'est une tradition française, mais qui a inscrit l'idée d'une écriture de fiction, d'un traitement de la philosophie et de l'histoire aussi.
À quel ouvrage de Foucault vous pensez?
Je pense qu'il a écrit une histoire de la prison, il a écrit une histoire de la folie, il a écrit une histoire de la sexualité aussi. Et c'est vrai que ce qu'on retient beaucoup de Foucault quand même, vous prenez l'histoire de la folie, ce qu'on retient de lui, ce sont des scènes. La scène de l'embarquement des fous, par exemple, la manière dont au XVIe siècle on mettait les fous sur des bateaux, le moment où on les a enfermés, le moment où Pinel les délivre de leurs chaînes, etc. Je veux dire, il y avait dans ma passion, pour la pensée de Foucault déjà ce goût. Pour le récit.
Pensez par image. Je pense au supplice de Damien au début de Surveiller et Punir, qui nous rapproche d'ailleurs du sujet, hein, des possédés. C'est-à-dire, on a l'impression que pour Foucault, une image forte, une image terrible, lui permet de penser.
Oui, je pense que des scènes historiques relativement précises. Le supplice de Damien, par exemple, qui fait
l'ouverture. Vous pouvez dire pour nos auditeurs le supplice de Damien.
Alors, le supplice de Damien, c'est vrai que Surveiller et punir, qui est un livre sur la naissance de la prison. Voilà, sur la naissance de la prison, s'ouvre avec l'évocation par un historien ou par, enfin, c'est même un témoignage direct du supplice d'un régicide. Damien était un régicide qui a été, j'allais dire, puni à souffrir des douleurs absolument atroces, tiraillé, brûlé, écartelé. Et c'est vrai qu'on a comme ouverture de ce livre toute une description très cruelle d'un travail du pouvoir sur le corps. Et ça sert de mise en scène évidemment à Foucault pour montrer comment avec la prison, quelque chose comme cette prise directe sur le corps. Quand je dis prise directe sur le corps, c'est la manière dont on va le mutiler, dont on va taillader les chairs, etc. s'efface au profit de ce qu'on appelle la privation de liberté. Et précisément, la peine moderne se constitue à partir du moment où le pouvoir se dessaisit des corps pour toucher ce qu'on va se mettre à appeler l'âme même du délinquant
et
du criminel.
Il y a un troisième personnage dans cette scène, c'est bien sûr le spectateur. C'est le spectateur, c'est ceux qui sont écœurés par ce spectacle épouvantable et qui met le pouvoir royal de l'époque dans ce que René Girard aurait appelé une crise sacrificielle. C'est-à-dire, tout d'un coup, on se demande mais quel est le plus cruel des deux? Est-ce que c'est Damien ou est-ce que c'est le roi qui le tourmente à ce point et publiquement?
Oui, alors ils sont écœurés et en même temps fascinés et on voit avec Damien. Et d'ailleurs, c'est une scène qui se retrouvera, on en parlera peut-être dans mon livre, c'est-à-dire le moment où quelque chose comme la punition au XVIIe siècle, la punition au siècle classique, XVIIe, XVIIIe, se construit comme un spectacle. C'est-à-dire que le propre du pouvoir souverain, c'est de se manifester comme spectacle, et à partir de là, le spectacle requiert un public. Et avec l'espèce d'ambiguïté toujours, en tout cas de risque, qui est pris quand même quand on fait un spectacle, c'est de savoir comment le public va réagir. Avec Damien, il s'agissait de susciter, j'allais dire, l'horreur, l'indignation face à celui qui avait osé en attenter au corps même du roi, en essayant de le tuer. Et donc, il faut le faire passer pour un être absolument infâme.
Là, on est à Loudun. Au début du XVIIe siècle, et non pas sous Louis XIII, où il y a cette tension avec les Huguenots, et on est dans l'Église. C'est-à-dire le pouvoir est, je dis pas identifié, mais extrêmement proche du pouvoir de l'Église. Et ce que vous mettez en scène dans Possédé, c'est l'exemple d'une justice religieuse, à tous les sens du terme, justice ecclésiastique, et aussi une justice religieuse de part en part, qui repose sur des notions comme le démon, l'exorcisme, la possession.
Alors, c'est vrai que c'est une affaire tout à fait curieuse. On est dans les années 1630. C'est dans ces années-là quand même que Descartes écrit son discours de la méthode. C'est-à-dire, on est au moment où quelque chose comme une analité classique, celle dont on se vante, qui fait, j'allais dire, à la fois notre fierté et notre identité philosophique.
Hein, et qui continue de nous nourrir, quand même. Un peu.
Oui, qui continue de nous nourrir, la belle raison, c'est-à-dire une manière de pouvoir traiter sereinement des problèmes et de dérouler ce que Descartes appelait les longues chaînes de raison. Et à cette même période, on a une histoire qui nous... Oui, qui est fascinante, c'est une affaire de possession, vous le rappelez, mais en même temps, quand on parle de possession, quand on parle d'affaire de sorcellerie quand même, parce que quand je dis possession, ça signifie en même temps sorcellerie. Ce que je veux dire par là, c'est que on fait une distinction en théologie catholique entre l'obsession et la possession. Si vous vous laissez traverser par des images impures...
Ça, c'est l'obsession.
Ça, c'est l'obsession. La possession signifie que votre corps est devenu le réceptacle, mais effectif, de démons qui sont entrés.
Au-delà de votre subjectivité.
Au-delà de votre subjectivité, mais ça suppose quand même qu'à un moment, il y a eu des intermédiaires. Ça peut être une odeur que vous avez respirée, ça peut être une aiguille qui vous a transpercé. En tout cas, le démon est entré par quelque chose de manière tout à fait physique et habite un recoin de votre corps.
Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on va retrouver dans Lord Dali, où Lord Dali, qui est une vieille technique processuelle au Moyen-Âge, on fait ingérer quelque chose parce que c'est le contact avec un corps étranger qui doit révéler si vous êtes... Ouais. Si vous avez dit vrai ou pas.
Oui, tout à fait. Par rapport à notre époque qui baigne, j'allais dire, dans la psychologie, ce qui est très curieux dans cette histoire, c'est qu'il y a quand même des représentations qui sont très, très matérielles. Qui sont très matérielles, c'est pas du psychisme. Hein. C'est-à-dire que le démon est là, mais si le démon est là, ça veut dire qu'il a été envoyé par quelqu'un.
C'est ça, il y a une sorte de viralité du mal, on pourrait dire. Le mal se propage, le mal circule, le mal est une substance, le mal a un nom, il s'appelle le démon.
Oui, le mal a un nom, mais j'allais dire la possibilité, l'existence du diable, c'est une... C'est un dogme théologique. Hein. L'Ancien Testament parle enfin, et le nouveau aussi, de cette existence du diable. Et effectivement, le démon nous permet de nous figurer que le mal a une consistance physique, qu'il vient, qu'il part, qu'il circule, qu'il peut être agité, qu'il peut être endormi, rampant, etc. On peut se donner une représentation tout à fait matérielle du mal et du principe du mal.
Mais cette représentation matérielle, Frédéric Gros, est-ce que c'est pas une sorte de fixation du mal? C'est une manière de le localiser, même s'il est invisible. Et est-ce qu'aujourd'hui, nos sociétés ne seraient pas d'ailleurs en difficulté de localiser le mal? Après la fin des grands récits, nous sommes orphelins, en quelque sorte, d'un discours sur le mal.
Alors, on est orphelin d'un discours sur le mal, c'est-à-dire qu'on est... où on est héritier peut-être d'une représentation beaucoup plus diffuse du mal. Le mal est devenu diffus, et le mal, j'allais dire... C'est le propre peut-être de l'expérience totalitaire, c'est peut-être l'héritage du XXe siècle. La manière dont le mal va se habiter des attitudes ordinaires, va habiter, je dis, c'est tout le problème qui a été posé par le procès Eichmann, oui. Parce que Arendt a appelé
la banalité
du mal, le bouquin de Browning aussi sur le 101e bataillon, etc., est sous-titré
les
hommes ordinaires. Oui. C'est-à-dire que ce qui, aujourd'hui, j'allais dire, nous inquiète, c'est la manière dont le mal peut cohabiter avec des formes tout à fait ordinaires d'existence. Voyez, par exemple, les deux grandes figures aujourd'hui. Vous prenez le terroriste et le pédophile. On va vous dire à propos de chacune d'elles, une fois que l'affaire est connue et bruitée, mais vous savez, c'était un voisin, il était charmant, on n'aurait jamais cru, etc.
Un gentil garçon, etc.
Un gentil garçon, c'est-à-dire qu'on est sorti de ce que permettait quand même cette représentation du démoniaque, c'est que on avait des convulsions,
entre deux, Frédéric Gros, entre la possession et puis le mal ordinaire du totalitarisme, et aujourd'hui, effectivement, vous avez raison de le dire, du terroriste, il y a eu quand même la nosographie psychiatrique, c'est-à-dire qu'il y a eu tout le savoir médico-social disant le mal, et c'est ce que je crois que ce qu'a décrit Foucault, c'est-à-dire comment on passe à la nouvelle représentation du mal qui s'exprime sous forme de symptômes et qui va susciter un savoir médico-social qui va permettre de guérir les gens. L'hystérie, quoi. Ces sœurs Ursulines dont vous parlez, aujourd'hui on dirait que c'est des hystériques.
Ouais, alors c'est curieux parce qu'effectivement, enfin quand vous dites ça, parce que le bouquin qui m'a fait entrer dans cette histoire des Ursulines de Loudun, de ces religieuses cloîtrées qui se mettent à désigner un coupable de leur convulsion, à savoir le prêtre même de la ville, la grande référence quand même, c'est un élève de Charcot qui l'a écrite. C'est le premier livre qui a été rédigé là-dessus, c'est Gabriel Légué, qui était un élève de Charcot, et je sais plus exactement, faudrait vérifier, mais je crois qu'il y a une préface de Charcot là-dessus, qui effectivement fait de ces Ursulines, donne la désignation qu'il appelle moderne, et qui serait hystérique. Et c'est vrai qu'on a toute une histoire, mais enfin bon, c'est celle peut-être que je voudrais raconter, parce que posséder, j'allais dire, c'est un premier opus avant magnétisé et avant hystérique, c'est-à-dire la manière dont se met à habiter en nous une forme d'altérité, l'autre en nous, l'autre absolu qui nous fait faire ça, qui nous fait faire ceci, qui loge en nous alors même qu'on n'en est pas responsable.
Je veux dire, c'est... Oui, c'est le fondement. L'altérité en nous, c'est quand même le fondement de la psychanalyse aussi. C'est-à-dire, je est un autre moi. Je est un autre, quoi. Et donc, c'est une expérience qui est intimement liée à l'expérience de l'humanité, avec cette différence qu'il y a un passage entre une nomination religieuse, une nomination psychiatrique, l'hystérie, et puis ce qu'on est incapable de nommer aujourd'hui sous la figure du terroriste.
Oui, mais est-ce que cette nomination, si vous voulez, est-ce que la nomination psychiatrique est la vérité de la nomination religieuse, ou est-ce que chaque culture, je pense que ce serait plutôt ça la position de Foucault, ou la mienne, mettons la mienne, ce serait de dire qu'au fond, chaque figure va donner forme, va identifier, va donner figure à partir de son propre contexte, de ses propres luttes internes. Parce que ça, vous l'avez rappelé au début, cette affaire, on est au début du XVIIe siècle, c'est-à-dire après des décennies de guerres de religion qui sont quand même terribles. Oui. Où ce qu'on appelle l'autre, le malin, le diable, etc., c'est quand même les protestants, c'est quand même la religion prétendument réformée. On est dans des affaires où les luttes de religion qui peuvent nous apparaître aujourd'hui comme des passés barbares, j'allais dire. En même temps, on en vit aujourd'hui, j'allais dire quelque chose.
Le corps exprime une division sociale. Le corps exprime une tension sociale. Il y a une relation qui est finalement assez mystérieuse, assez complexe, et que vous approchez à travers ce récit de possession. C'est précisément comment comprendre, comment rationaliser, comment conceptualiser ce lien entre ce que vivent des femmes dans leur corps, et on peut leur donner acte qu'elles le vivent véritablement, c'est pas mis en scène.
Non, mais vous avez raison, Antoine Garapon, c'est-à-dire que le problème, on est face à cette histoire de possession. Bon, Premier choix que vous pouvez faire, c'est de dire, ça a été le choix de l'Église catholique, de dire la possession est authentique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des diables, qu'il faut les faire sortir, c'est-à-dire les exorciser.
D'authentification par l'Église catholique.
Ah oui, oui, oui. Qui était en même temps très dangereuse, parce que ça veut dire quoi, authentification par l'Église catholique ? On dit la possession est authentique, c'est-à-dire... Elles ne jouent pas la comédie, ce sera l'autre truc. Elles sont pas dans l'imposture, c'est pas des espèces. Les Ursulines, c'était un ordre qui était un ordre cloîtré, donc ces femmes vivaient vraiment en milieu clos. C'est pas qu'elles ont trouvé un moyen de se divertir. Elles sont effectivement possédées et il y a des preuves. Enfin, tout ça est très compliqué, etc. Mais donc je
oui, c'est ça, c'est-à-dire que elles sont les Ursulines, c'est plusieurs couvents sont traversés au cours du XVIIe siècle par le même symptôme, on dirait aujourd'hui, de possession.
Oui, oui.
Donc le rôle de l'Église, c'est bien d'authentifier.
Oui, mais authentifier, il faut voir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va exorciser. On va interroger. Il faut bien voir que l'exorcisme se construit quand même avant tout comme un interrogatoire, mais un interrogatoire judiciaire. C'est-à-dire la production.
C'est pas une opération magique, l'exorcisme.
C'est pas magique. C'est-à-dire que l'Église catholique établie à ce moment-là, ça a été établi par la Sorbonne, des autorités théologiques, une thèse extrêmement dangereuse qui consiste à dire le diable sous contrainte dit la vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un exorciste se présente avec toute la puissance derrière lui de l'Église apostolique romaine et catholique et interroge le diable, parce que ce qui répond dans le cadre d'un exorcisme, c'est pas une Ursuline qui répond, c'est le diable qui est logé sous l'aisselle droite, au-dessus du sein gauche. D'ailleurs, la première question qu'on lui pose, c'est une question très matérielle. Où est-ce que tu es dans le corps? À quel endroit tu loges, puisque c'est devenir un
spectacle. Et dans la question, dans la scène de la ce qu'on appellerait aujourd'hui de la torture, mais qui n'était pas une torture à l'époque, qui est la scène de la question, où on cherche à piquer le corps, c'est piquer le corps pour trouver la partie qui ne réagira pas, le corps du suspect, pour voir la partie, celle qui ne va pas réagir, et enfin localiser matériellement, encore une fois, corps, le démon.
Parce que tout est, encore une fois, tout est très matériel, et on considère que, quand quelqu'un a signé un pacte avec le diable, une des preuves, c'est qu'il va présenter sur lui des points d'insensibilité parfaite. Donc l'idée, c'est qu'on va déshabiller ce corps, et là, c'était le corps d'Urbain Grandier, le prêtre de la ville.
Qui est un personnage historique.
Qui est un personnage historique, tout ça, à 98%. Après, il faut évidemment donner deux, trois éléments pour faire le lien et attester historiquement. Donc on le fait passer... vous dites c'est pas une torture, c'est-à-dire qu'on va on va le piquer sur tous les coins du corps jusqu'à trouver des points d'insensibilité parfaite qui vont être des preuves. Et autre preuve qui va jouer, je reprends quand on interroge cette fois le corps des Ursulines et qu'elles répondent, etc., ça va être quand même... Alors, vous, comme juge, j'allais dire, ça doit vous interpeller aussi, ça va être des pièces judiciaires.
Oui,
c'est-à-dire,
oui,
on va dire, tel diable, Belzébuth, Ascaraon, a dit, oui, parce qu'on lui dit quel est ton nom.
C'est ça.
Et là, on se dit, ah bah oui, c'est celui-là, c'est un tel ou tel.
Je dois vous confesser, Frédéric Gros, le terme est à propos, qu'effectivement, pour le juge que je suis, mais je pense que pour tous les juristes, c'est très troublant de voir cette compénétration de la preuve judiciaire, du procès des formes procédurales et de cette distance qu'introduisent les formes procédurales de l'Église, les arguments théologiques, tout cela ne fait qu'un. Il y a un greffier, il y a le chirurgien qui doit s'exécuter, etc. Et on a l'impression, alors jusqu'à un certain point, je ne veux pas dévoiler le roman pour les futurs lecteurs, d'une certaine insensibilité de la part des acteurs judiciaires. C'est désagréable, il faut le faire, mais ils le font sans du tout en supporter la culpabilité personnelle.
Oui, sans en supporter. Alors ça, je pense que c'est des thèses qui vous sont familières, parce que peut-être qu'effectivement la procédure est là pour déculpabiliser le juge. Parce que c'est vrai que dans un cadre un peu chrétien, pour un juge condamner quelqu'un à mort, si vous voulez, ça veut dire c'est un poids assez important.
C'est ça.
Mais après tout, si vous respectez le rituel, si vous respectez vous n'avez pas à supporter cette mort que vous prononcez.
C'est ça.
Donc, alors ça, je reprends parce que vous y avez été sensible et C'est tout à fait ça, c'est extrêmement codifié. Je veux dire, quand on torture Urbain Grandier, c'est pas qu'on va s'acharner sur un corps, on va mesurer la taille des morceaux de bois, puisqu'il s'agissait d'un supplice dans lequel on enfonçait des coins de bois pour pouvoir lui broyer les jambes. On va torturer on va calculer la taille, on a droit à tant de boisseaux, etc. Donc tout ça est extrêmement
Frédéric Gros, on pourrait même y dire, avancer, ce à quoi je souscrirais personnellement, que le rituel, les rituels judiciaires, mais c'est vrai, de beaucoup de formes sociales, sont là pour protéger, pour mettre un filtre, pour empêcher que le sentiment de culpabilité personnelle, de ce qui est fait à un corps, d'autrui, soit endossé par le magistrat ou par l'officier de justice.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on se protège par le rituel et le rituel fait écran par rapport à ce qui est produit comme souffrance sur un corps.
Alors nous continuons cette discussion avec vous, Frédéric Gros, après avoir entendu la musique d'ascenseur pour l'échafaud de Miles Davis. C'est véritablement un ascenseur pour l'échafaud, l'histoire de ce malheureux Urbain Grandier.
C'est un ascenseur pour le bûcher.
Pour le bûcher en plus, oui, c'est encore pire.
C'est un ascenseur pour le bûcher. Et ce qui me plaisait dans cette musique, Antoine Garapon, c'est vrai que c'est vraiment la sensation, quelque chose d'abord d'assez angoissant, une espèce de sensation d'inéluctable. Et ce que je retrouvais dans le film, qui moi m'a frappé dans cette histoire, et c'est ça que j'essayais que j'essayais de faire passer, il s'agit quand même d'un délire collectif. Je veux dire, par là, que ces sœurs ursulines qui vont affirmer que Urbain Grandier, le prêtre de la ville, par ailleurs plutôt libertin, plutôt enclin d'ailleurs à discuter avec les protestants, ce qui plaît pas beaucoup, plutôt enclin à ne pas vouloir la destruction des forteresses que voulait Richelieu, parce que derrière il y a quand même, je veux dire, cette histoire serait jamais allée jusqu'au bout si le politique ne s'en était pas mêlé. Donc
puis alors le père Joseph aussi,
oui, le père Joseph aussi, en tout cas ses sœurs ne l'ont jamais rencontré. Je veux dire, elles étaient cloîtrées. Elles l'ont jamais vu. À part le moment où, quand ça va trop loin, on organise une scène où on essaye de dire, est-ce que c'est bien lui? Est-ce que vous le reconnaissez? Sauf qu'elles l'ont jamais vu. Ça veut dire quoi?
Mais il y a le oui-dire, Frédéric Gros, que vous montrez très bien. C'est-à-dire qu'il y a cette sœur qui est enfer, qui est cloîtrée, mais qui n'a de cesse que de vouloir capter tous les ragots de la ville, toute l'ambiance. Mais le ragot, c'est un peu péjoratif, c'est pas des ragots. Elle veut comprendre ce qu'est les mouvements, on dirait de l'opinion aujourd'hui et en faire quelque chose. Elle veut savoir.
Ouais, elle veut comprendre, elle veut régner. Et ça, quand vous me dites ça, Antoine Garapon, c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose qui, au fond, ce serait ça qui est peut-être profondément foucauldien, pour autant que je puisse m'en réclamer dans le livre. C'est l'idée qu'on va aller chercher un lieu quand même d'enfermement, de cloîtrage, etc., où elles sont censées être hors du monde, une espèce de lieu retiré de la société.
Hétérotopique,
ouais. Hétérotopique, mais pour dire que c'est là que va se jouer et que se cristallise tous les conflits sociaux, toutes les identités, c'est là que ça se fait jouer. C'est-à-dire que les bords noirs de notre société, ce qu'on appelle les marges, c'est là où s'exprime peut-être le mieux l'identité. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher dans ce qu'on promeut, dans ce qu'on affirme,
dans les sermons,
dans ce qu'on dit qu'on est, ça, etc., aller chercher du côté de ce qu'on rejette, de ce qu'on exclut.
Les Ursulines Federigo, elles ne sont pas véritablement rejetées. Au contraire, on voit bien que ce sont des filles de famille. Alors, c'est vrai qu'elles sont, alors, dans notre vocabulaire moderne, frustrées. Ce sont toutes.
Elles ont fait de chasteté.
Et puis, dans la possession, prend des contours extrêmement sexuels, sexualisés. Alors, on peut se demander là s'il n'y a pas l'expression d'un refoulement. Mais tout ça sont des termes modernes que vous n'employez pas d'ailleurs.
Ouais, c'est des termes modernes. J'essaye de pas les employer. En même temps, ce qui est absolument génial, enfin que j'ai trouvé très fou, c'est que j'ai essayé de montrer comment ce qui surgit, c'est quand même la figure de la victime. C'est peut-être la première fois que la figure de la victime dans toute sa pureté arrive. Pourquoi ? Parce que ses sœurs sont là, elles sont cloîtrées et elles se mettent à ressentir par ces récits qui circulent, et ben on imagine comme ça des élans, des caresses, des sensualités, etc. Mais à partir du moment où elles se disent que toutes ces caresses, toutes ces sensualités, tous ces désirs érotiques comme ça qui affleurent, et même au-delà, tous les blasphèmes, la manière dont elles peuvent insulter
elles sont le contraire d'elles-mêmes.
Oui,
quand
mais
elles
ça
sont
n'est
possédées.
Plus elles.
Oui,
c'est sûr. À partir du moment où on leur dit qu'un diable est en elles, elle s'autorise, si vous voulez,
elle se lâche,
mais ce sont des pures victimes. Oui. Parce que, encore une fois, on va jamais dire, et à aucun moment on dit dans cette histoire, attendez, il faut les brûler. Oui. C'est des sorcières. Non, ce sont des pures victimes.
Oui, mais c'est très inquiétant, cette figure de la victime, parce que ce sont des victimes accusatrices. Et ce sont des victimes manipulées, à vrai dire, beaucoup plus qu'accusatrices.
Ah,
elles sont
manipulées
par l'évêque, par la hiérarchie catholique, et puis, plus lointainement encore, par le pouvoir. Par Richelieu. Elles sont manipulées pour faire un travail qui les dépasse complètement, qui est de nature politique.
Ouais. Elles sont manipulées. Il y a eu deux grands épisodes de possession. Le premier, j'allais dire, fait une espèce de flop. Va pas jusqu'au bout, parce que derrière, il y a aussi des histoires aussi de vengeance provinciale, parce que Grandier a quand même engrossé la fille du procureur de la ville. Je veux dire, c'est pas rien non plus, etc. Il y a des vengeances, mais encore
c'est
une
un
fois...
C'est un libertin, au sens du 17e du terme.
C'est un libertin, c'est un libertin. C'est pas quelqu'un de très, d'extraordinairement sympathique. C'est pas un pur martyr. Cela dit, après, ce qu'il va dire, c'est simplement, enfin, ça méritait pas ça non plus.
Oui, c'est ça.
Voilà,
On va revenir sur le personnage de Grandier qui est très intéressant, mais continuons il y a deux phases de possession.
Je finis, la première fait flop, mais quand le pouvoir, c'est-à-dire quand je dis le pouvoir, c'est Richelieu, c'est Louis XIII, c'est le père Joseph, quand le pouvoir sent comment quelque chose comme un délire religieux peut servir de levier à l'affirmation de la raison d'État, parce qu'on est en 1630. Richelieu, c'est la raison d'État.
Bien sûr,
c'est le moment où quelque chose comme la France, comme territoire centralisé, comme unité nationale se met en place. Et quand la raison d'État trouve de quoi se nourrir dans ce délire, là, eh bien, à ce moment-là, l'épisode de la possession ira jusqu'au bout. C'est assez étonnant de voir comment un des premiers une des premières matières de la raison d'État dans notre histoire, ça a été justement ce délire érotique de très jeunes filles cloîtrées à vie.
Mais Frédéric Gros, vous faisiez observer qu'on est au moment où Descartes écrit sur le traité sur la raison, qui va fonder la rationalité occidentale en grande partie, et comment expliquer ce lien? Parce que vous montrez finalement le pôle, la raison d'État, l'hystérie, la possession de ces femmes, et ensuite comment tout le travail politique va consister à réunir l'Église et le peuple contre Urbain Grandier. Donc deux phénomènes croisés de bouc émissaire, ou je ne sais pas comment dire, où quelqu'un ou des corps se font porteurs d'un esprit, d'une raison, du temps. Comment expliquer ça?
Oui, c'est ce qui est frappant, c'est que ça vous on l'a déjà dit. C'est vrai que j'ai pas choisi la thèse de. Après tout, on pourrait de l'authenticité de la possession. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelque chose comme un démoniaque proprement politique. Oui, je suis pas sûr que le démon existe, mais peut-être bien que sûr. La politique est ce qui nous ferait croire à l'existence du diable, parce que. Au niveau de la manipulation,
c'est
au
formidable.
Niveau de la manière dont on va monter cette affaire,
Frédéric, je retourne ma question différemment parce que vous parliez de Charcot.
Oui.
L'hystérie a quasiment disparu de nos sociétés. Le syndrome hystérique, la grande hystérique, celle qu'on montrait à la Salpêtrière au début du XXe siècle, elle a quasiment disparu. Comme quoi, les symptômes, la possession, c'est ça. Ma question était peut-être mal formulée, mais dans le fond, c'est la question que je voudrais vous poser. C'est comment vous, en philosophe, vous expliquez ce lien mystérieux entre une société, entre un état social et des symptômes qui sont ressentis par les personnes qui les éprouvent de manière extraordinairement douloureuse et authentique.
Je pense que je dirais que ces symptômes-là délirants, que les formes de la folie révèlent la manière dont les sociétés politiques règlent leurs problèmes. C'est-à-dire que c'est par les formes qui vont être données au délire qu'on va voir comment une société règle... Ça sert à quoi la folie? Ça sert quand même à régler le problème des autres. Je veux dire que les fous règlent les problèmes des parents, des frères, des parentèles, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je décris avec ce phénomène de possession, c'est vraiment la manière dont un délire collectif, dont un délire social se met à faire exister des choses. C'est-à-dire, encore une fois, ça peut paraître tout à fait accablant, mais elles n'ont jamais vu cet homme et, j'allais dire, il finit très mal. D'ailleurs, ce qui fait Antoine Garapon que j'avais choisi aussi cette musique d'ascenseur pour l'échafaud, c'est que, je veux dire... On se dit à chaque fois, mais non, mais ça va pas marcher. À un moment, ils vont se rendre compte. Quoi. Oui. C'est pas possible. Je veux dire, soyons impérieux. Je veux dire, on se dit, réveillons-nous. Sauf que quand le cauchemar est social, ça s'appelle réalité.
Mais ça s'appelle réalité.
Et donc, ça va jusqu'au bout.
Ça va jusqu'au bout. Mais et du coup, ce qui est intéressant dans le personnage d'Urbain Grandier, qui m'a personnellement, Frédéric Gros, beaucoup interrogé, c'est qu'il ne se révolte pas. Non seulement il ne se révolte pas, mais il retourne en quelque sorte au nom de la même foi catholique, et en cela peut-être qu'il annonce quelque chose d'un autre état social, d'une autre conception de la foi, qui serait peut-être plus contemporaine, en disant mais je vous pardonne. Tout le monde oui. l'accable, tout le monde l'accuse, il va finir très mal, et il pardonne, et il ne cesse de pardonner.
Alors c'est vrai qu'il ne cesse de pardonner. Alors, ce personnage, comment est-ce qu'il faut le construire? Il y avait une version très fameuse qui était celle de Michelet. Michelet a consacré un très très
le grand Michelet,
chapitre
Michelet,
hein. dans La Sorcière. Il consacre tout un chapitre à cette affaire de Loudun et il fait de Grandier une espèce de proto-libertin, quelqu'un, espèce d'avant-gardiste, etc.
Entre les Renaissances et la Renaissance et les Lumières.
Qui annonce la modernité et qui... finalement aurait été victime de l'obscurantisme religieux, etc. Bon, moi c'est vrai que ça m'intéressait pas de voir les choses comme ça, parce que ce qui m'a troublé dans cette histoire, c'est qu'au fond, pour s'éviter, enfin, c'était un peu fini pour lui, pour s'éviter beaucoup de souffrances, Urbain Grandier aurait pu accepter le fait et signer le fait que qu'il était sorcier. Et jusqu'au bout, il tient.
Il tient.
Et qu'est-ce qu'il fait tenir? Je pense que ça a été une forme. Ça a été une forme de foi, une forme de conviction religieuse. Qui le grandit à la fin, mais j'allais dire seulement à la fin, parce que franchement, je pense que c'est quand même un personnage. Il a abusé quand même de très jeunes filles. Je veux dire, il séduisait des jeunes filles, il les engrossait, etc. Enfin, je veux dire que. Bon, alors, sans avoir des jugements absolument moraux, etc., il n'était pas d'une exemplarité folle.
Non.
Mais à partir du moment où il fait l'épreuve de ce que j'appelle là le démoniaque politique, bah, ça le fait refluer justement vers l'authenticité, ouais, l'authenticité d'une foi.
Alors, il y a une autre dimension, Frédéric Gros, dans votre roman, qui est une dimension qui est aujourd'hui, toujours, bien sûr, très contemporaine, c'est celle de l'aveu. Il faut absolument qu'il avoue, qu'il signe, mais qu'il signe profondément, intérieurement, publiquement, que ça soit vérifié, authentifié par tous. Parce que le peuple est un peu troublé quand même. Le ouais. peuple est moins stupide. Vous ne faites pas de caricature du peuple. Il y a un moment quand il sort pour aller marcher vers son destin final, des gens l'appellent monsieur le curé, notre bon curé. Cette permanence de l'aveu à vous lire, Frédéric Gros.
Ouais, c'est vrai que ce qui m'a frappé, c'est la manière dont c'est quelque chose qui doit vous interpeller aussi, c'est la manière dont la forme juridique est omniprésente dans cette histoire. Et ça, c'est quelque chose pour le coup qui nous surprend beaucoup. Je sais pas, par exemple, il y a un moment, on demande à Urbain Grandier, parce que les exorcismes étaient devenus publics, parce qu'on va instrumentaliser. Ça, je l'ai dit, on instrumentalise l'affaire de la possession. Donc, on se dit, on va s'en servir pour rétablir d'abord la grandeur de l'Église catholique, apostolique et romaine. Contre le protestantisme. On va faire des exorcismes publics, donc on va montrer la victoire contre le démon, la supériorité de l'Église. Et à un moment, au cours de ces exorcismes, qui semblent, encore une fois, l'évêque est là en plus, et l'évêque demande à Urbain Grandier lui-même, le sorcier, d'exorciser lui-même, hein, d'exorciser les sœurs. Et là, Grandier se dit, j'ai ma chance, c'est-à-dire que je vais les mettre à l'épreuve. Et il voit les sœurs, il leur dit, écoutez, je croirai en l'authenticité de la possession, je suis là devant vous, faites-moi une marque au front.
Voilà.
Alors là, tout le monde est saisi.
Donc lui aussi croit à l'inscription
oui,
sur le corps.
Oui, il croit à l'inscription, il leur dit, allez-y, je suis prêt.
C'est authentique.
Et elles lui répondent, tu sais que nous avons signé hier un pacte avec toi qui nous interdit de faire cette inscription. C'est-à-dire, tout est passé dans la moulinette de cette inscription. Parce que quand vous dites, il faut qu'il signe, oui, il faut qu'il signe parce que tout ce montage pervers, diabolique pour pouvoir justement détruire ce personnage, il faut en même temps que chacun en soit innocenté, déresponsabilisé, et à partir du moment où on obtient sa signature, c'est vrai, je suis bien le sorcier qu'on a dit, à ce moment-là, tout le monde est sauvé.
Parce que Frédéric Gros, on est dans le cadre de l'Église catholique, et donc du droit canon. Et donc, d'une Église, c'est ce qui fait la force, et je crois, c'est unique dans l'histoire, c'est-à-dire un transcendant qui est organisé, qui est rationalisé par le droit. Et par le droit, et dans le roman, il répond, mais je ne suis pas mandaté. Ce n'est pas dans mon pouvoir, sous-entendu mon pouvoir juridique. Moi, je suis assigné à une paroisse, je suis curé de paroisse, je ne suis pas exorciste, qui sont des fonctions qui étaient séparées et qui, sauf erreur de ma part, le sont toujours aujourd'hui dans l'Église catholique. Chaque diocèse comporte un exorciste.
Oui, toujours. Et d'ailleurs, il semble même que ces activités-là ne sont pas, j'allais dire, complètement en berne. Il y aurait des reviviscences parce que, encore une fois, ce qu'on appelle la possession, c'est un nom, c'est une forme culturelle à un moment qui a été donnée à ce qui en nous peut se passer, qui à la fois est logé en nous et ne nous appartient pas.
Alors, Frédéric Gouraud, on va faire un exercice totalement, totalement décalé dans l'histoire et penser le contemporain, parce qu'on sent ce qui rend la lecture de votre roman troublante, outre le fait que pour un juge, on y voit des tas de choses qu'on n'avait pas forcément envie de voir. On se demande, nous sommes aujourd'hui dans une période qui est, par certains côtés, post-historique, ou certains le prétendent, post-psychanalytique, c'est-à-dire que aujourd'hui, comment on peut identifier le mal? Comment on peut identifier le mal à un moment où on ne croit plus à la psychanalyse ou la psychiatrie, du moins dans sa forme humaniste de l'entretien, de remettre un sujet dans son histoire propre. On croit plutôt malheureusement au destin. On croit à une sorte de sémiologie qui nous enserre, qui nous prédestine.
Alors comment est-ce qu'on peut identifier le mal aujourd'hui? C'est vrai que ce texte, ce roman, il a beau se passer au XVIIe siècle, il faisait écho, j'allais dire, par rapport à un certain nombre de mots contemporains, c'est-à-dire la
et d'une division, parce que je trouve aussi aujourd'hui qu'on retrouve cette hantise de la stasis, pour le dire de manière un peu pédante en grec, c'est-à-dire de la division, la division entre les communautés,
la division de la guerre civile,
tout à fait,
ce qu'on appelle la guerre civile, etc.
Et on n'est pas très loin de la fronde qui va venir 10 ans après.
On n'est pas loin de la fronde et on est à un moment où on voit que le jeu du pouvoir, ça va être, et c'est ça qui me semble terriblement contemporain, ça va être toujours de calculer à court terme le profit qu'on peut tirer de ces histoires. Et ça, c'est vraiment très frappant, la manière dont... alors je dis ça quand y a un moment où je mets en scène une espèce de rencontre entre Richelieu, l'éminence rouge, et le père Joseph, l'éminence grise. Hein, c'est de là que vient ce terme, personnage. Ah ouais, tout à fait, parce qu'il avait la robe de bure, etc.
Qui est un personnage qui a une apparence très médiocre ou très humble.
Alors très, très humble, qui est en même temps, j'allais dire, qui dispose par tous les carmes, par tous les religieux, de tout ce qu'on appelle la police séraphique. C'est le moment où les premières structures de surveillance se mettent en place. Et on voit qu'alors que ces personnages sont vieux, vont mourir bientôt, ils sont, j'allais dire, dans le calcul de leur plus de puissance.
Alors, ils vont le payer, je ne vais pas dévoiler non plus la fin du roman, ils vont le payer de leur vie, d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux. Et ce qui est terrible, peut-être, et ça fait partie de l'angoisse de ce roman, de l'angoisse de cette époque, et peut-être de l'angoisse de notre époque, c'est que l'Église ne joue pas son rôle d'institution triangulatrice. Elle ne joue pas le rôle de recours, de tiers. Elle est instrumentalisée, elle est complètement dans la manigance politique.
Elle est dans la manigance politique et effectivement ce récit tente de montrer le point où la justice d'Église et où la justice d'État commencent à se recouvrir l'une l'autre et à se donner les mêmes objets de haine.
Alors, Frédéric Gros, ce sera la dernière observation. Ça veut dire que pour notre époque, il y a un enseignement à retirer sur cette fonction institutionnelle.
Oui, tout à fait, oui.
Fonction institutionnelle d'un recours, d'une société sans tiers, une société sans tiers où le pouvoir est en contact direct avec les passions les plus obscures de la société et qui n'arrive pas à trouver de tiers pour les pacifier.
Tout à fait, oui, c'est encore une fois l'éloge de la nécessité du tiers.
Merci beaucoup, Frédéric Gros.
Merci, Antoine Garapon.
Discussion du soir, Frédéric Gros, Cédric Châtelus, Corinne Amard. Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon.